écoutez la radio mondiale. Il est 5h30 à Kinshasa. Une heure de plus à Paris et à Djouba. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Et tout de suite votre journal avec à la une ce matin un rapport au vitriol sur la gestion de la Gécamines.
La société minière de République démocratique du Congo, sa gestion bien souvent à distance est épinglée, ses investissements parfois sans rapport direct avec son activité questionnée et ses pertes en dizaines de millions d'euros sont pointées du doigt. Correspondance à Kinshasa dans un instant. Dans ce journal également reportage à bord au Soudan du Sud, ville de 400 000 habitants qui ne s'en sort pas de ces inondations. Plusieurs quartiers de la ville sont sous l'eau depuis plusieurs semaines. Une fresque à Dakar, au Sénégal, en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec Antoine Grenier. On parlera football, hand et cyclisme ce matin avec la fin du Tour du Cameroun. Des décisions irrationnelles, des investissements questionnables et un mépris des obligations sociales pour au final une production en chute, des pertes de plusieurs dizaines de millions de dollars. En République démocratique du Congo, difficile de trouver du positif dans le rapport parlementaire qui s'est penché sur la gestion de la Gécamines, la compagnie minière de RDC. Rapport du député John Kabeyam Bonda que Pascal Moulégua à Kinshasa a lu pour nous.
La direction de la Gécamines fonctionne sans vision managériale claire et dans une opacité quasi totale, accuse les rapports. La compagnie aurait perdu plus de 47 millions de dollars américains en 2024 en tentant de relancer la production via une stratégie qui s'est révélée non rentable, confie les traitements des minerais à des entreprises tierces. Dans le même temps, la direction investit 125 millions de dollars dans une minoterie et 43 millions de plus dans la réhabilitation des deux tours jumelles sans rapport direct avec l'objet social de l'entreprise, note la mission parlementaire. Côté production, l'effondrement est inédit. Des 25 000 tonnes de cuivre et 300 tonnes de cobalt en 2019, la production de la Gécamines a chuté à 1 500 tonnes de cuivre et 0 cobalt en 2024. Les députés attribuent ces scandales à la direction générale, je cite, qui dirige l'entreprise à distance par voie téléphonique. Les directeurs généraux passent rarement plus de 2 semaines par mois à Lubumbashi. L'an dernier, la Gécamines a quand même réussi à réaliser des recettes de plus d'1 milliard de dollars via différents contrats de participation. Pour les députés, ces fonds suffisent s'ils sont bien gérés à permettre un début de redressement du fleuron congolais des mines. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
L'Assemblée nationale congolaise qui travaillait donc hier et qui a choisi au terme d'une session à huis clos d'autoriser des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba, soupçonné de détournement de fonds dans le cadre du contrat de construction d'une prison. Décision qui ouvre la voie à un procès. Quant au ministre, la loi prévoit qu'il présente sa démission. Constant Mutamba, qui depuis le début de la procédure rejette toute accusation de détournement et parle, je cite, d'acharnement et de complot politique. Lui, c'est son engagement contre la corruption qui a été salué hier à Rome, où Floribert Bouanachoui a été béatifié par l'Église catholique. Ce laïc congolais, originaire de Goma, contrôleur des douanes, assassiné en 2007 après avoir refusé de laisser entrer en RDC des vivres avariés. Présent à Rome, hier, l'avocat et ancien député Juvenal Bounoubo.
Bouanachoui s'est trouvé dans une situation où il pouvait tenter justement de prendre la corruption, c'est-à-dire de prendre l'argent, de ne pas appliquer les normes de conformité comme commissaire aux avaries, parce que c'est lui qui était appelé à constater si les marchandises étaient autorisées pour la commercialisation. Mais lui, il a vu qu'il fallait prévenir, il fallait interdire la commercialisation de ces marchandises pour préserver la santé de la population, pour que des marchandises avariées ne puissent pas causer de maladies. Il s'est donné jusqu'au sacrifice suprême. Et comme l'a dit le cardinal Ambongo, c'est un appel à plus d'engagement pour ceux qui dirigent et à plus d'engagement pour tout le Congolais pour instaurer une bonne gouvernance et une transparence dans la gestion de la chose. Il était membre très actif de la communauté de Sant'Egidio, qui est l'une des communautés catholiques. Et il assistait les pauvres, les enfants de la rue, à leur donner à manger, à leur donner une école. Donc il était très actif dans les cadres de son association.
L'avocat et ancien député congolais Juvenal Mounoubo. La République démocratique du Congo, où les autorités de Kinshasa comptent désormais 29 morts après les inondations qui ont touché la capitale congolaise dans la nuit de vendredi à samedi, pourtant en pleine saison sèche. Touché également la ville voisine de Brazzaville, où un premier bilan avant-hier faisait état de 3 décès. Des pluies diluviennes et des inondations qui sont devenues malheureusement le quotidien des habitants de Bor, la capitale de l'État du Jonglei au Soudan du Sud. Depuis plusieurs années, le Nil Blanc déborde régulièrement et les digues renforcées n'y changent rien. Les eaux de pluie ne s'évacuent plus et des quartiers entiers de bords sont sous l'eau depuis le début de la saison des pluies au mois de mai. Un reportage de Florence Mieto.
Situé en contrebas de deux grosses artères de bord, le quartier de Niguel patauge dans près d'un mètre d'eau stagnante. À l'aide de casseroles, trois frères écopent l'eau qui a envahi leur maison. Leur sœur, Atobol Kwol, 21 ans, témoigne.
Il y a eu une énorme pluie il y a trois semaines qui a provoqué ces inondations. Ça a détruit tout ce que nous avions à l'intérieur de la maison. Nos matelas, les affaires que nous avions dans des valises et la nourriture que nous avions en stock.
D'autres femmes s'approchent. Elles ont dû quitter leur domicile et campent dans la rue. Parmi elles, Awa Kanyang, une femme très frêle de 60 ans, vit sous une moustiquaire tendue entre deux bâtons.
Le gouvernement dit qu'il va nous venir en aide. Mais nous sommes dans l'eau depuis un mois maintenant et ils ne sont pas venus. Nous dormons dehors et nous nous faisons piquer par les moustiques. Nous n'avons pas de bâches en plastique pour construire des abris. Que devons-nous faire? Quitter la ville? Si la pluie se met à battre, je risque de mourir car je n'ai pas assez de force, pas de nourriture et je n'ai nulle part où aller.
Les autorités locales disent manquer de moyens pour faire face. Elles se heurtent aussi à un problème épineux, l'évacuation de certaines zones résidentielles nécessaires afin d'ouvrir des canaux de drainage des eaux de pluie. Florence Mieto, Bor, RFI.
RFI 5h36 à N'Djamena. Que signifie vraiment le dernier communiqué du procureur de la République au Tchad? Autorité judiciaire qui met en garde les journalistes se rendant à Mandakao, cette localité du sud du pays, théâtre d'affrontements intercommunautaires le mois dernier, qui valent en ce moment à l'opposant Succès Masra d'être en détention provisoire pour des accusations d'incitation à la haine. Le procureur estime que les journalistes pourraient entraver le travail de la justice et se trouver eux-mêmes sous le coup de poursuite. Ce matin, l'Union des journalistes tchadiens dénonce une grave atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'informer. Une société civile et une opposition qui donnent de la voix, mais qui sont obligés de le faire de l'extérieur du pays, au Mali, où l'on revient maintenant sur ce projet de loi adopté la semaine dernière en Conseil des ministres, qui prévoit pour le président de la transition, le général Goïta, un mandat de 5 ans, renouvelable à partir de 2025, sans faire mention d'élection. David Bachet.
Les militaires au pouvoir avaient promis de ne pas s'y attarder, de sécuriser le pays, de réformer les institutions et d'organiser des élections. 5 ans plus tard, la période de transition a plusieurs fois été prolongée et les élections annoncées reportées. Les Maliens qui avaient cru à ces promesses sont désormais fixés. Oumar Berthé est avocat et politologue, chercheur associé à l'Université de Rouen.
On l'a vu venir. Je pense que la transition passe maintenant dans une nouvelle phase. Il n'y a plus aucune perspective électorale, aucune perspective de faire une transition. On en revient à la case départ avant la restauration de la démocratie dans les années 90. Pour ça clarifie les choses. Il n'y a aucune volonté de laisser le pouvoir et de repartir dans les casernes.
La dissolution le mois dernier des organisations politiques du pays empêche toute velléité d'opposition sous peine de sanctions. Si certaines voix, en exil notamment, dénoncent les atteintes aux droits des Maliens et la confiscation du pouvoir, les autorités de transition ont verrouillé toute perspective de mobilisation au Mali. Oumar Berthé.
Il est certain que les partis politiques dissous vont tenter de s'organiser. Ceux qui sont en exil et ceux qui sont sur place encore. Mais tous ceux qui sont sur place, toute tentative de s'organiser pour s'opposer à cette mesure va être étouffée, non seulement par la violence, comme cela a été récemment, les enlèvements, les kidnappings, et la justice.
Les opposants promettent de ne pas se laisser faire et de résister à ce qu'ils qualifient désormais de dictature, sans dévoiler comment ils comptent contourner le risque de répression. Très dissuasif.
Le Mali, qui ne fait pas partie des 25 nouveaux pays africains concernés par des restrictions de visa envisagées de la part des États-Unis, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, en revanche, le sont, d'après un document de la diplomatie américaine consulté par le Washington Post. Les États-Unis mettent en cause la qualité des documents d'identité pour certains de ces pays et estiment pour d'autres qu'un nombre trop important de leurs ressortissants ont dépassé la date limite de leur visa. 4e jour ce lundi de la confrontation confrontation militaire entre Israël et l'Iran par bombardements interposés, alors que l'État hébreu dit maintenant viser des sites de missiles en Iran et que Téhéran, en réponse, dit avoir frappé avec succès le territoire israélien. RFI s'intéresse ce matin aussi à la situation humanitaire à Gaza et à la réponse de la communauté internationale. Au Sénégal, pays à majorité musulmane, la solidarité avec Gaza se manifeste de manière plutôt discrète. Quelques marches, par exemple, ont eu lieu, mais ces dernières semaines, c'est une fresque murale qui a marqué les esprits. Elle dénonce un geste symbolique, le don de 77 moutons par l'État israélien à des familles sénégalaises à l'occasion de la Tabaski, alors même que la famine sévit à Gaza. Reportage de Juliette Dubois.
Sur l'île de Ngor, un mur attire désormais les regards. Il est recouvert d'une grande fresque colorée. Au centre, un mouton ensanglanté, une référence à une récente distribution de moutons organisée par l'ambassade d'Israël. Cette œuvre a été réalisée par le collectif RBS Crew à l'initiative du collectif Artistes africains contre l'apartheid. Tabara Korkandiaï en fait partie.
L'ambassade, chaque année, distribue des moutons à des familles démunies, comme ils le disent. Pour nous, c'est inapproprié, c'est inadmissible, surtout en ces temps de génocide. On ne peut pas bombarder des gens, tuer des gens, les brûler vifs et venir dans un pays du Sud et prétendre à la charité.
Pour l'artiste palestinienne Yasmine Eid Sabag, l'idée est de sensibiliser avec le dessin.
L'information ne circule pas de manière suffisante pour que les personnes puissent comprendre en fait que c'est primordial de refuser ce genre de cadeau, de vraiment prendre une position très claire et nette.
En échangeant avec les étudiants engagés pour la cause palestinienne, le collectif a choisi d'élargir le propos à d'autres luttes. Un message fort est inscrit en anglais. Personne n'est libre tant que tout le monde ne l'est pas.
En Afrique, il y a des conflits aussi graves, avec autant de morts, avec la famine, que ce soit au Congo, au Soudan. Il y a aussi la question du Sahara occidental qui est extrêmement importante. Et donc, il y a un peu cette question, nous, en tant qu'Africains, est-ce qu'on ne doit pas se concentrer d'abord sur ce qui se passe en Afrique avant d'aller voir plus loin?
Le 21 juin, une rencontre artistique aura lieu devant le mur pour créer un espace de deuil collectif. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et je vous rappelle que RFI ce matin vous propose deux éditions spéciales sur les situations en Iran et à Gaza, après le journal de 8h, heure de Paris. Enfin, à Madagascar, les justifications du gouvernement face à la multiplication des délestages, des coupures d'électricité, parfois jusqu'à 12 heures par jour. Alors que la semaine dernière, plusieurs quartiers d'Antananarive, la capitale malgache, ont vu des manifestations spontanées face à cette situation. Et le ministre de l'Énergie assure que la fourniture de courant va s'améliorer. Et pour Olivier Jean-Baptiste, ce qui se passe en ce moment, c'est la conjonction d'un manque d'eau en cette saison 7 et de problèmes structurels liés à la nature du réseau.
Cette année 2025, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent un peu la situation. Premièrement, les pluies se sont arrêtées beaucoup plus tôt que prévu. En mois de mai, par exemple, on a déjà constaté que les rivières, les fleuves qui alimentent plusieurs centrales hydroélectriques ont baissé beaucoup plus vite que les autres saisons. Les centrales hydroélectriques donc sont à peine jusqu'à 55% max de leur potentiel réel. Il y a aussi la situation du réseau lui-même. Le réseau interconnecté d'Antananarive commence à dater et c'est un réseau déjà très saturé en matière de conduite d'électricité sur les différentes lignes. Alors parmi les actions nécessaires pour résoudre cela, donc d'abord il y a une centrale de 105 mégawatts qu'on va installer du côté d'Amboul-Manamboul. On a dans les projets d'accélérer aussi l'installation de parcs solaires. Donc c'est le déploiement de cela qui va pouvoir augmenter la production d'électricité dans les semaines et dans les mois à venir.
Le ministre de l'Énergie de Madagascar à Antananarive où il est 7h43.
Afrique Matin sur RFI.
Afrique Matin à suivre. Quelle solidarité africaine pour Gaza. Reportage à Tunis, d'où est partie l'une des caravanes qui entend casser le blocus imposé par Israël sur le territoire palestinien. Sujet que l'on évoque aussi avec notre invité ce matin, l'historien sénégalais Abdoulaye Batili, entretien tout à l'heure avec Christophe Boisbouvier. On parlera également de la situation économique du Tchad et du plan de développement récemment adopté par N'Djamena. Mais tout de suite, ce sont les sports. Et les sports ce matin avec Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Xavier.
En football, la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis est le début idéal du Paris Saint-Germain.
Malgré les conditions de jeu étouffantes à Pasadena, dans la banlieue de Los Angeles, le club parisien a facilement dominé l'Atlético de Madrid 4-0. Début de Fabián Ruiz, Mayulu, Kangin Lee et Vitinha, le Portugais pleinement satisfait de son entrée en lice.
Ah oui, on a très bien senti, moi, l'équipe, même avec ce type de conditions. Ça fait chaud, il fait chaud, c'est vraiment difficile de jouer avec cette condition. Mais c'était pour nous, c'était pour l'Atlético aussi. Je pense que pour eux, encore plus difficile parce qu'ils n'ont pas de ballon. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, comme toujours, avoir le contrôle du match, avoir le ballon, faire le courir et créer l'occasion. Je pense qu'on a tout fait. On pouvait encore marquer plus de buts, mais on est heureux et content avec ce type de résultat et exhibition.
Prochain match pour le Paris Saint-Germain dans la nuit de jeudi à vendredi contre Botafogo. Les Brésiliens qui ont dominé les Seattle Sounders cette nuit 2-1. Dans les autres rencontres de ce mondial des clubs, pas de quartier pour le Bayern Munich qui s'impose 10-0 sur les Néo-Zélandais d'Auckland. Et dans ce même groupe C, les Brésiliens de Palmeiras et le FC Porto se sont neutralisés 0-0.
En République démocratique du Congo, le sport s'efface devant les urgences nationales.
En particulier le handball dont les championnats ont été suspendus. Le gymnase du Stade des Martyrs qui accueillait les matchs ayant été réquisitionnés pour servir de refuge aux déplacés victimes des inondations meurtrières d'avril dernier. La Fédération congolaise de handball peine depuis à trouver une solution de substitution, Olga Massangou.
Les amoureux du handball devront prendre leur mal en patience pour assister aux différentes rencontres du championnat de Kinshasa. Herman Guédico, le secrétaire général de la Fédération de handball de la RDC, revient sur les raisons de la suspension du championnat.
Le terrain sur lequel les athlètes sont en train de jouer n'est pas adapté. Vous savez que ce terrain est en pente et puis des deux, nous allons participer à plusieurs compétitions et de peur que les athlètes aient des blessures, tout ça. Alors nous avons demandé à la Ligue de pouvoir surseoir au championnat.
Les conditions inadaptées qui s'ajoutent au fait que depuis avril dernier, les infrastructures acquises après les Jeux de la Francophonie qui pouvaient accueillir ce championnat servent de refuge aux victimes des inondations à Kinshasa.
En attendant que les sinistrés libèrent les installations du Stade des Martyrs, nous prenons langue déjà avec l'administration du stade, l'AG du stade, le ministère et la LINAFOOT pour trouver un créneau pour nous permettre de jouer à l'intérieur du Stade des Martyrs.
Alors que le championnat national débute dans quelques semaines, le gouvernement est appelé à trouver une solution rapide pour la réinsertion des sinistrés afin de permettre aux sportifs de bénéficier des infrastructures sportives qui les accueillent depuis 2 mois, conclut Herman Guédico. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
Et en cyclisme, Antoine, un Algérien pour la première fois s'impose sur le Tour du Cameroun.
La 21e édition s'est achevée ce dimanche à Yaoundé sur le succès d'Islam Mansouri. L'Algérien devance au général le Burkinabé Moukala Rwende. La 10e et dernière étape de ce Tour du Cameroun a été remportée par l'Allemand Lucas Carstensen. Prochain rendez-vous cycliste dans le pays, le Grand Prix Chantal Biya, ça sera au mois d'octobre.
Merci Antoine Grenier, c'était le Journal des Sports.
RFI, toute l'actualité.
Xavier Besson.
Et l'actualité internationale de ce lundi 16 juin, 4e jour de guerre entre Israël et l'Iran. Ce matin, Israël affirme avoir détecté une nouvelle salve de missiles iraniens. De fortes détonations ont été entendues à Jérusalem. Un missile s'est aussi abattu sur Haïfa dans le nord. De son côté, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur l'Iran. Elle divisait ce lundi des sites de missiles sol-sol. Hier, elle avait bombardé la capitale, Téhéran, la ville de Mashhad aussi, ainsi que des installations militaires dans l'ouest de l'Iran. Le bilan humain est d'au moins 224 morts et plus d'un millier de blessés en Iran depuis le déclenchement vendredi de l'attaque israélienne. C'est ce que dit le ministère iranien de la Santé qui parle de 90% de civils. Le chef du renseignement des gardiens de la Révolution est décédé. Les services de secours israéliens évoquent eux 18 décès et près de 400 blessés. Et c'est de Tunisie qu'est partie l'une des caravanes qui entend bloquer le blocus humanitaire imposé par Israël à la bande de Gaza. La caravane Soumod, actuellement bloquée en Libye. Mais cette initiative a montré que la force de mobilisation de la société civile tunisienne en faveur des Palestiniens existait. À Tunis, reportage de Lilia Blaise.
Samedi 14 juin, alors que la caravane Soumoud était encore bloquée à Sirte dans l'est libyen, des centaines de Tunisiens se sont réunis au centre-ville de Tunis pour soutenir l'initiative. Heikel Marfouzi, un journaliste indépendant, a participé à cette caravane jusqu'à Ras El Jdir, le poste frontalier tuniso-libyen.
C'était vraiment incroyable le soutien que nous avons eu, la solidarité tout au long des villes tunisiennes que nous avons parcourues. On sent que le mouvement de la marche pour Gaza a beaucoup fédéré.
Pour Raouf Farah, chercheur algérien basé en Tunisie, c'est tout le Maghreb qui se sent concerné. Près de 700 Algériens se sont joints à la caravane.
Je pense qu'en tant que Maghrébin, nous sentons cette responsabilité à la fois morale et politique de dire assez au génocide, assez aux violences génocidaires contre les Palestiniens, au silence et à la complicité des autorités, des gouvernements, des institutions internationales face à un crime.
Sur la page Facebook qui cumule plus de 200 000 abonnés, les participants au convoi n'ont pu poster que de rares informations, faute de réseau notamment. Ils affirment être en négociation avec les autorités libyennes, selon Haïkel Marfouzi.
On en a eu vent de plusieurs personnes du convoi qui ont été arrêtées. On est encore en train de mettre à jour les informations que nous avons eues au fur et à mesure. C'est très difficile de joindre la caravane actuellement et on ne sait pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire.
Dimanche 15 juin, les porte-paroles du convoi insistaient encore dans une vidéo pour rester en Libye et ne pas faire marche arrière, même si la caravane a dû rebrousser chemin vers Misrata, faute de résolution avec les autorités à Sirte. Mohamed Emine Benour, médecin, s'exprime dans un haut-parleur.
Il faut rester patient et soudé. Nous tous, Tunisiens, Algériens, Mauritaniens, nous allons y arriver ensemble.
Malgré le blocage, la détermination reste entière. L'espoir d'arriver jusqu'à Rafah s'amenuise. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Une guerre à Gaza et une situation humanitaire des Gazaouis qui pourrait passer un peu au second plan de l'actualité immédiate depuis qu'Israël s'est engagé dans une escalade militaire avec l'Iran vendredi. Mais n'oublions pas Gaza, disent de nombreux observateurs, dont notre invité Afrique ce matin, l'historien sénégalais, ancien ministre, ex-émissaire de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Batili. Alors que depuis le 7 octobre 2023, jour du massacre de plus de 1200 Israéliens par le Hamas, ce sont plus de 54 000 Palestiniens qui auraient été tués en représailles par Israël. Abdoulaye Batili, réponse ce matin aux questions de Christophe Boisbouvier.
Eh bien, je crois pour tous ceux qui luttent pour la paix dans le monde, ce qui se passe à Gaza est une horreur indigne de l'humanité à ce stade-là.
Qu'est-ce qui vous horrifie en particulier ?
Des dizaines de milliers de morts, des enfants, des femmes, que des millions d'êtres humains n'aient pas la nourriture accessible. Tout cela aujourd'hui constitue des horreurs indignes de la communauté internationale qui regarde cela pratiquement avec une indignation sélective.
Alors que répondez-vous à ceux qui disent, notamment en Israël, que tout cela ne serait pas arrivé si le Hamas n'avait pas commis le massacre du 7 octobre 2023 ?
Avant le 7 octobre, ces horreurs avaient déjà commencé depuis 1948. Les massacres à Deir Yassine, les massacres de villageois palestiniens, les déplacements forcés, le système d'apartheid qui a été mis en place et qui a transformé le peuple palestinien en peuple errant hors de son sol natal. C'est cela qui est la base pour comprendre le 7 octobre, même si on ne justifie pas ce qui s'est passé le 7 octobre.
Au regard du droit international, quel est le mot qui convient à vos yeux pour qualifier ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ?
De mon point de vue, c'est un crime contre l'humanité.
D'autres parlent de génocide.
Évidemment, c'est un génocide aussi contre le peuple palestinien. Les deux éléments sont liés dans ce cas précis. Espérons qu'on aille vers la reconnaissance de l'État de Palestine.
L'historien sénégalais Abdoulaye Batili, entretien complet à écouter dans une heure et à retrouver sur RFI.fr et sur l'Iran et sur Gaza, édition spéciale sur RFI tout à l'heure après le journal de 8h, heure de Paris. Pour l'instant, il est 5h53 à N'Djamena, au Tchad, où le Conseil des ministres a récemment adopté un plan national de développement, plan appelé Tchad Connexion 2030. Un plan qui entend mobiliser 30 milliards de dollars, publics et privés, pour désenclaver le pays et diversifier son économie. L'objectif, c'est d'atteindre une croissance à 8% dans 5 ans, dans un pays où, dans le même temps, l'extrême pauvreté gagne du terrain chaque année. Claire Fage.
Le plan, baptisé Tchad Connexion 2030, souhaite mettre en valeur la position centrale du Tchad en Afrique, en faire un nœud logistique, explique le ministre tchadien des Finances, Tahir Hamid Nguilin.
Tous les grands corridors africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest, transitent par le Tchad. Le thème connexion ici marque la volonté de nous positionner comme un hub logistique, mettre en place l'ensemble des moyens nécessaires à ce que la navigabilité sur le lac Tchad soit effective avec des ferries, des ports, des débarcadères.
Électrifier à 90% les zones urbaines et à 60% l'ensemble du pays, fournir de l'eau à 11 millions de personnes supplémentaires, le plan prévoit aussi de doubler la scolarisation en primaire grâce à l'ouverture de l'enseignement au secteur privé qui est également attendu, souligne le ministre, dans le secteur de l'or et de la transformation industrielle des produits de base.
Que le secteur privé, avec des licences, avec des conditions financières, des facilités fiscales et douanières sans pareil, puisse investir et connecter à l'énergie notre population et passer à l'industrialisation et à une transformation plus poussée de nos matières qui sont les mines, les produits agricoles, les produits d'élevage, l'arachide, le sésame, la gomme arabique et des produits de niche comme la spiruline.
Ce plan de 30 milliards de dollars élaboré par les autorités de N'Djamena en collaboration avec la Banque Rothschild et le cabinet Roland Berger est très ambitieux, mais le Tchad a un atout, reconnaît Charles Boissel, analyste Afrique centrale chez International Crisis Group, son très faible endettement.
C'est ambitieux et on voit malheureusement souvent de ce genre de plan publié par les ministères sans que ce soit vraiment suivi des faits. Après, un des rares points positifs pour le Tchad, c'est qu'il a des capacités de financement bien supérieures aux autres pays de la CEMAC, parce que sa dette équivaut à seulement 30% de son PIB, ce qui est trois fois plus faible que le Congo, par exemple.
Le Tchad est sorti de la période compliquée du remboursement de prêts contre des barils à Glencore, ce qui lui permet de profiter davantage de ses revenus pétroliers. Le FMI soutient son plan avec sa facilité élargie de crédit, mais le défi du développement est gigantesque avec un demi-million de Tchadiens supplémentaires plongés dans l'extrême pauvreté depuis les inondations.
Un dossier Afrique Économie signé Claire Fage. Et du Tchad, on passe au Gondwana. Maman, vous nous dites qu'en temps de guerre, il faut savoir faire le tri entre l'information et la propagande.
Oui, au Gondwana, on dit que la propagande, c'est quand chacun voit midi à sa porte et veut convaincre les autres que chez eux aussi, il est midi et partout ailleurs, et qu'il est midi tous les jours, et que d'ailleurs, midi est la seule heure qu'il y a sur la montre, et que si tu dis qu'il n'est pas midi, c'est que t'es de mauvaise foi et qu'il faut te combattre, te condamner, t'excommunier. La propagande, c'est quand quelqu'un entre chez toi, de force, en tirant, bombardant, cassant tout sur son passage, tu hurles à l'agression et à l'invasion, mais lui dit que c'est une opération militaire spéciale ou juste une intervention, et il n'en démord pas. Du coup, mais chacun verra midi à sa porte. Et l'observateur neutre, quand il en reste, saura qui parle et d'où quand il entendra quelqu'un dire d'une invasion que c'est juste une intervention ou une opération militaire spéciale et d'une intervention que c'est une intolérable agression. La propagande, c'est le fait de regarder une pièce de monnaie et de prétendre que pile et face est pile et puis c'est tout. Par exemple, c'est le fait de montrer des hommes armés sur un terrain de guerre sans uniforme reconnaissable d'un camp ou de l'autre et de dire que c'est des instructeurs ou des combattants volontaires parce qu'ils sont de ton camp. Mais par contre, c'est le fait de les traiter de mercenaires quand ils sont de l'autre camp. Dans propagande, il y a pro. Chacun est pro quelque chose ou pro quelqu'un, mais rarement pro vérité. Et ça marche partout, hein, dans tous les domaines. Par exemple, quand quelqu'un dit que Lionel Messi est surcoté, qu'il a usurpé ses ballons d'or et qu'il n'est même pas dans le top 5 des meilleurs footballeurs de tous les temps, ben tu peux être sûr que c'est de la propagande venant d'un pro Cristiano Ronaldo. Et inversement, la propagande des pros Messi prétendra que si Cristiano Ronaldo ne tirait pas les pénaltys, eh ben jamais il n'aurait eu le total de buts dont il se vante aujourd'hui. D'où le surnom que lui donnent les pros Messi, Cristiano Penaldo. La propagande, c'est quand t'as des bombes qui tombent sur un pays faisant leur travail de bombe, c'est-à-dire des victimes à profusion et des dégâts à gogo, et que dans un camp, on dit que c'est des bombardements criminel, et de l'autre, on dit que c'est juste des frappes aériennes comme si c'était une frappe de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. La propagande, c'est quand des gens défendent vraiment leur pays avec les moyens de bord. D'un côté, on dit que c'est de courageux résistants, et de l'autre, on les traite de dangereux terroristes. C'est ça, la propagande. Dans la guerre sociale, elle est là aussi, hein, la propagande. Quand les salariés parlent de cotisations sociales, les employeurs parlent de charges sociales qui leur cassent le dos. Dans la propagande, que tu le veuilles ou pas, mon ami, que tu le saches ou pas, ben tu peux te retrouver dans la face éclairée de la lune ou alors relégué d'office dans sa face sombre sans espoir d'en sortir un jour. À demain.
À demain. Merci Maman. Merci aussi à Pauline Berthélémy qui était à la réalisation de cette édition d'Afrique Matin. Vincent Dublange à la rédaction en chef. Restez avec nous dans 30 secondes sur RFI. Un nouveau journal. Nous appelons notamment notre correspondant à Jérusalem. Passez une excellente journée, une excellente matinée à l'écoute de la Radio Mondiale.
Venez célébrer la fête de la musique le 21 juin prochain et participez à cet événement festif dans le monde entier autour d'une programmation de concerts gratuits. Un événement organisé par le ministère de la Culture. Plus d'informations sur fêtedelamusique.fr. En partenariat avec France Média Monde.